L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous propose une heure H spéciale Saint-Valentin. Et petit avertissement. Cet épisode n'est peut-être pas à mettre entre les oreilles des plus jeunes. Aux parents jugés. Nous sommes le 2 novembre 1957. Au Washington Hospital de Saint-Louis, dans l'état du Missouri. Bill et Ginny, de son vrai nom Virginia, sont assis derrière un grand bureau en acacia verni, dans l'obscurité. Ils ne se parlent pas. Ils se préparent avec appréhension à la première séance de leur étude. À travers un immense miroir sans teint, ils observent la pièce voisine, une ancienne salle d'opération qu'ils ont complètement réaménagée pour les besoins de l'étude. Ils ont remplacé la table d'opération par un petit lit double, agrémenté d'oreillers et de draps blancs. De chaque côté de la pièce, Ginny a installé de jolis paravents aux allures japonaises, mais le lino blanc porte encore les traces noires des brancards et une lumière glaciale règne dans la pièce. Près du lit, il reste une grosse machine hissée sur une table à roulettes, dernier vestige de cette salle de chirurgie. 20h15, l'heure H de mon histoire. Bill et Ginny n'osent pas se regarder. Une façon de maîtriser leur excitation, mais aussi de se montrer pudique et professionnel face à l'expérience pour le moins incongrue qui va suivre. Ginny fait semblant de prendre des notes pour se donner une contenance et Bill garde le regard fixé sur un des deux paravents dans la pièce voisine, imperturbable. En fait, il se comporte comme si c'est eux qu'on observait. Et c'est pas tout à fait faux. Après des semaines d'argumentation, Bill a enfin obtenu le feu vert du doyen de l'hôpital, mais ils le savent. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Il leur a été vivement recommandé de se montrer discret. Le sujet est sensible, Bill. Et les gens ne sont pas prêts, y compris au sein de la communauté médicale. Alors, faites pas de vagues, a prévenu le doyen. J'ai accepté votre étude parce que votre réputation est sans tache et votre notoriété nous rapporte des patients du monde entier. Mais sachez que je vous ai à l'œil. Un mouvement derrière un des deux paravents, une jeune femme apparaît, vêtue d'un peignoir de coton bleu ciel. Hésitante, elle se dirige vers le lit au centre de la pièce. C'est le moment que choisit Ginny pour quitter l'obscur bureau. En rentrant dans l'ancienne salle d'opération, elle fait apparaître un sourire confiant sur son visage. « Vous n'avez pas froid, mademoiselle ?» demande-t-elle chaleureusement, soucieuse du bien-être de la patiente. Celle-ci fait « non » de la tête. Alors Ginny se dirige vers la tablette sur laquelle trône la grosse machine. Elle la fait rouler et en dégage une série de fils de couleurs. « Bien, et alors vous pouvez enlever votre peignoir. Je vais fixer toutes ces électrodes sur vous. C'est sans douleur, bien sûr. Cela nous permettra d'analyser toutes les réactions de votre cerveau et de votre corps. Voilà. Oui, allez-y, allongez-vous, s'il vous plaît. » Ginny saisit ensuite un long tube en plexiglas transparent qui était rangé sous la machine. Tenez, voici Ulysse. Bon, on l'appelait comme ça parce qu'il est équipé d'un œil, une mini-caméra. Vous avez peut-être vu le film qui vient de sortir au cinéma avec Kirk Douglas, ajoute-t-elle pour détendre l'atmosphère. Eh bien, c'est notre cyclope à nous et il nous montrera tout ce qui se passe in utero. Je vais le chauffer un peu avec une serviette chaude, voilà. Bien, à présent, je vais vous laisser. Et surtout, prenez votre temps. Je reviendrai à la fin de la séance. Ginny sourit une dernière fois à l'attention de la jeune femme et quitte la pièce sans bruit. « Nous y sommes, Bill !» lance-t-elle en revenant dans le bureau. Bill regarde sa montre et déclenche son chronomètre. Il est 20h22 et 10 secondes. Nous sommes le 2 novembre 1957, au Washington Hospital de Saint-Louis dans le Missouri. Depuis le petit bureau qui leur sert d'observatoire, Bill et Ginny regardent leur première volontaire. Armé de son chronomètre, Bill commente la séance et Virginia prend les notes. « Phase d'excitation », annonce-t-il. Les minutes passent. On n'entend plus que les grattements de la plume de Virginia et quelques soupirs qui proviennent de l'exam room number 5. Bill regarde soudain son chronomètre et annonce « Deuxième phase, phase plateau, après 5 minutes et 40 secondes, changement physique perceptible de la poitrine. Phase 3, orgasme », déclare en même temps Bill et Ginny quelques secondes plus tard. Ginny se penche à nouveau sur ses notes pour capturer l'information et le timing. Et phase de résolution, conclut enfin Bill. William Masters, gynécologue et obstétricien de renommée mondiale, se tourne enfin vers son assistante nouvellement embauchée, Virginia Johnson. C'est la première fois qu'elle le voit sourire. Elle non plus ne peut se retenir de lui rendre ce sourire. Ils l'ont fait. Ils y sont arrivés. L'étude William Masters sur les comportements sexuels humains est officiellement lancée. Elle va chambouler toute la communauté scientifique, mais surtout, elle va changer le monde.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de deux sexologues et de leur étude sur le sexe. Ils s'appellent William Masters et Virginia Johnson et ils vont inspirer la révolution sexuelle américaine. Quand les deux chercheurs débutent leur étude sur le sexe, nous sommes au milieu des puritaines années maccartistes. Le sexe est tabou. L'homosexualité est considérée comme une maladie et le rôle de la femme se résume à tenir une maison. D'abord en secret, puis en plein jour, Bill et Ginny vont observer 10 000 rapports sexuels, analysant chaque changement, chaque réaction du corps, tant chez les femmes que chez les hommes. Leur alibi ? La science, bien sûr. La science est une mise au point qu'ils jugent nécessaire sur des idées reçues vieilles de plusieurs siècles. Il s'appelle William Masters, mais tout le monde l'appelle Bill. Depuis toujours, il sait qu'il accomplira de grandes choses. Bill est né en 1915, d'un père violent et d'une mère effacée. Entre deux coups de ceinture, sans doute pour amadouer son père, Bill consacre son temps à devenir le meilleur. Il n'y parviendra pas, du moins pas au regard de son paternel, qui le chassera définitivement de la maison quand il aura 15 ans. Dès lors, le jeune garçon a une revanche à prendre et il y parvient cette fois. On le retrouve quelques années plus tard, athlète accompli, étudiant en médecine à l'université de Rochester dans l'État de New York. Il pilote des avions tout en se spécialisant en obstétrique. Car déjà, il a une idée bien précise en tête. Faire une découverte majeure dans un secteur encore méconnu de la médecine, le sexe. Quasiment tout ce qui mérite d'être connu est connu, sauf le sexe. Et je veux faire une découverte, je veux mon nom dans l'histoire, dira-t-il un jour. Eh bien Bill, t'es pas au bout de tes peines, plaisantent ses professeurs en sciences. Tu dois être mieux préparé pour affronter notre société. Tu dois avoir un plan à moyen terme et être crédible. Et pour ça, tu dois être marié, avoir au moins la quarantaine pour qu'on ne puisse pas contester ta séniorité. Tu dois pouvoir présenter un parcours modèle, avoir l'appui d'une université. Alors seulement, tu pourras te lancer dans ce type de recherche. Et qu'à cela ne tienne, Bill les prend au mot. Petit à petit, le jeune homme va se construire une image et une carrière irréprochable. À 27 ans, l'ambitieux docteur épouse la docile Elizabeth Ellis, avec qui il aura deux enfants. L'année suivante, il déménage à Saint-Louis. Bill travaille très dur pour asseoir sa réputation de gynécologue obstétricien au sein de la maternité du Washington Hospital. Il est un des premiers obstétriciens à pratiquer l'anesthésie caudale pour soulager les douleurs lors de l'accouchement. Il réussit à créer des vagins artificiels pour des femmes nées sans cet organe. Peu à peu, il se spécialise dans l'infertilité et met en place un programme de recherche sur la stérilité au sein de la maternité. Puis dans la foulée, il crée une des premières banques de sperme du pays. Il met au point la technique du capping, permettant de stocker les spermatozoïdes et de les insérer dans le vagin grâce à une capsule. Si William Masters a choisi l'obstétrique, c'est pas par hasard. C'est une spécialité qui lui permet de mieux comprendre l'appareil reproductif humain et donc le sexe. Dès le début de sa carrière, les nombreux cas d'infertilité qu'il rencontre le confortent dans son opinion. Parce que c'est tabou, personne n'y connaît rien. Hommes et femmes sont ignorants de ce qui se passe dans leur corps tout au long des différentes étapes de la procréation. Et il n'est pas rare que Bill doive conseiller à ses patients de freiner leur rapport ou, au contraire, de s'accoupler à des moments bien précis du mois et à une fréquence espacée, afin que les spermatozoïdes reviennent à leur niveau optimal. Lors de dîners entre collègues, Masters s'amusait à raconter qu'un jour, un couple très puritain était venu se présenter à son bureau pour un problème d'infertilité. Il pensait pouvoir concevoir un enfant en couchant ensemble, au sens littéral du terme. Ils attendaient ainsi tous les soirs, allongés côte à côte, que la nature opère. Masters leur donna un véritable cours de reproduction et 2 mois plus tard, ils attendaient un enfant. Après 10 ans passés au sein de l'hôpital Washington, William Masters est devenu une sommité. Il a accouché la moitié des femmes de notables de la ville. Des couples viennent du monde entier pour le consulter dans l'espoir de concevoir. Il sait qu'à lui seul, il fait la réputation et la fortune de l'hôpital. Quand il aborde enfin son étude sur les comportements sexuels humains auprès du doyen de l'hôpital, celui-ci ne peut que s'incliner. D'autant que Bill propose de financer lui-même intégralement ses recherches. Mais il est loin d'imaginer le parcours du combattant qui se dresse devant lui. Une étude sur le sexe dans les puritaines années 1950. L'objectif est insensé. À cette époque, la religion, les traditions culturelles et l'ignorance des hommes sont un obstacle à ce type de recherche. Pour les Américains, la reproduction est synonyme de famille et d'enfants, le sexe, de vice et de condamnation, surtout s'il est pratiqué par les femmes. D'ailleurs, qui s'intéresse à l'orgasme féminin et au clitoris? Non, le rôle de la femme est d'être une épouse et une mère modèle, assignée aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants, point. Les besoins sexuels masculins sont davantage tolérés, mais pudeur, discrétion et respectabilité font légion. Pourtant, depuis peu, apparaissent ça et là les premiers signes d'un changement, d'une certaine libération sexuelle. Il y a quelques mois, le sulfureux Elvis Presley chantait « Hound Dog » dans le show télévisé de Milton Berle, se déhanchant de façon très suggestive. La nation a crié au scandale, mais les jeunes ont acclamé le King. Playboy a sorti son tout premier numéro. Le magazine s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires grâce à Marilyn Monroe, devenue la première playmate. Du côté de la recherche scientifique, on vient de découvrir le rôle de la progestérone. La pilule contraceptive en est à ses balbutiements. Mais dans un pays où l'avortement est un crime, elle est porteuse d'espoir pour beaucoup de femmes, même si elle sera d'abord exclusivement réservée aux femmes mariées. Enfin, un certain Alfred Kinsey vient de publier deux études sur le comportement sexuel des hommes puis des femmes. Ces études, basées uniquement sur des interviews et des questionnaires, distinguent pour la première fois reproduction et plaisir sexuel et démontrent que l'homosexualité est plus courante qu'il n'y paraît. C'est sur cette vague que William Masters va surfer. L'étude Kinsey le passionne, mais il sait que les résultats sont faussés. J'ai eu l'occasion de réaliser lors de mes consultations que les gens ne disent pas toujours la vérité, surtout quand il s'agit de sexe, expliquera Bill quelques années plus tard. Pour lui, interviewer des sujets sur le sexe n'est pas suffisant. Il doit pouvoir analyser le phénomène directement. Dans un premier temps, l'honorable William Masters va se tourner vers les seules expertes capables d'en savoir plus que lui sur le sexe. Les prostituées. Pendant des mois, il passe ses soirées dans les bordels de Saint-Louis. Il interviewe pas moins de 118 femmes et 27 hommes, en échange d'une compensation financière, mais aussi de consultations médicales et gynécologiques gratuites. Par la suite, il choisit une dizaine de prostituées pour ses observations. Cachées dans des recoins sombres, des placards ou derrière des murs dans lesquels on a perforé un trou, parfois plié en deux, Masters observe, mesure. Combien de temps durent les rapports? Quelle position mène à la jouissance? Il note même la force des rebonds sur le lit. Rapidement, Masters, le maître de la reproduction, réalise qu'il ne connaît rien au sexe, ou plutôt qu'il a tout faux. La franchise et l'absence de pudeur des prostituées lui en apprendront bien plus que les centaines de couples bien éduqués de Saint-Louis. Ces connaisseuses lui expliqueront comment elles solutionnent les troubles de l'érection ou l'éjaculation précoce. Certaines avoueront que non, toutes les femmes n'ont pas d'orgasme à chaque rapport et que beaucoup simulent. Enfin pourquoi ? Demandera Masters, abasourdi. Enfin, mais pour que ça aille plus vite, répondent les prostituées, hilares. Dites, docteur, il faudrait quand même avoir une interprète féminine. Hein. Non, mais vous ne connaissez rien au sexe, et aux femmes non plus, on dirait. Bill ne répond pas, mais il réalise en effet l'évidence. Pour mener à bien son étude, il a besoin d'une partenaire féminine. Il est un homme, alors il peut aisément imaginer ce qui se passe dans le corps et la tête d'un homme. Mais qu'en est-il des femmes ? Il traite des patientes à la maternité, mais il comprend qu'il ne suffit pas de les connaître. Il doit aussi les comprendre. Toutes ces années passées à aider les couples à concevoir lui ont appris une chose importante. La reproduction ne va pas sans le sexe, mais le sexe n'est pas qu'une histoire de physiologie. Il renferme également une grande part de psychologie. Bref, c'est un pan entier de son étude qu'il lui faut mettre en lumière. Et pour cela, il lui faut aussi le matériel adéquat. Il doit mesurer la tension, le rythme du cœur, la température, la respiration de ses sujets. Enfin, son groupe de prostituées n'est pas représentatif de la société américaine. Comment faire accepter un jour son étude auprès de cette nation arriérée si ses sujets sont des prostituées et des gigolos ? Virginia Johnson a 31 ans, cheveux bruns, d'ailleurs toujours impeccable. Elle a de l'assurance et se montre toujours très à l'aise en société, avec les femmes comme avec les hommes, qui la jugent très attirante, à défaut d'être ce qu'on appelle une beauté. Petite fille de Mormon, Ginny mène une vie aux antipodes de celle de ses grands-parents. Ancienne chanteuse performant dans les bars de Saint-Louis, divorcée deux fois au scandale. Mère de deux enfants, elle est loin des petites novices qui occupent les secrétariats de l'hôpital. Le jour où elle rencontre l'éminent William Masters, Ginny cherche un nouveau job qui doit lui permettre de reprendre des études en anthropologie tout en subvenant aux besoins de ses enfants. En répondant à l'annonce de Bill, elle pensait l'assister dans l'accueil des couples mariés qui ne parviennent pas à avoir d'enfants. L'entretien d'embauche est plié en quelques minutes. Virginia répond aux questions sur son parcours avec sincérité et aplomb, sans rien cacher de sa vie pour le moins inhabituelle. Bill, pragmatique, apprécie d'emblée son assurance. Bon, de toute façon, c'est pas une petite niaise qui l'aidera dans sa recherche sur le sexe. Quelqu'un demandera un jour à Bill pourquoi il avait choisi Ginny. Et Bill répondra « Parce qu'elle savait d'où venaient les bébés ». Ginny est donc embauchée et dans la foulée. Le doyen de l'hôpital leur donne l'autorisation de mener leurs recherches au sein même de l'hôpital, pourvu qu'ils soient discrets. Fini les soirées dans les bordels de Saint-Louis. Bill peut déménager son étude dans l'exam room number 5 du Washington Hospital. Très vite, le couple Masters-Johnson trouve son équilibre. Bill est un homme aussi rigide que le nœud papillon qu'il portera toute sa vie sous sa blouse blanche. Il est direct, réfléchi, froid et, à première vue, dénué d'empathie et de sensualité. Une caricature de l'homme de science. Virginia est tout le contraire. Chaleureuse, spontanée, instinctive, engageante. Elle devient rapidement un atout précieux. C'est elle qui met à l'aise les participants à l'étude, en particulier les femmes, rassurées de voir une femme aux côtés du docteur Masters. Bill et Ginny vont travailler sans relâche, aux dépens de leur famille et de leur vie sociale. Le jour, ils reçoivent des consultations. Bill opère, accouche et Ginny apprend. Le soir, dans le plus grand secret, ils interviewent et observent leurs volontaires. Il y a les séances coïtales, réunissant un homme et une femme qui ne se connaissent pas et qui portent des sacs en papier sur la tête afin de protéger leur anonymat, et les séances masturbatoires, c'est-à-dire individuelles. Au début, Bill et Ginny peinent à trouver des volontaires. Nous sommes, rappelons-le, à la fin des années 50, le sexe est tabou, mais Ginny est pleine de ressources. Elle sait user de son charme pour persuader hommes et femmes de s'inscrire. Elle s'attaque au campus hospitalier et universitaire d'abord. Petit à petit, les volontaires se présentent chez Masters. Ils font partie du personnel soignant, sont étudiants ou encore épouses de médecins. Ils viennent pour l'argent, par curiosité, amusement, lassitude. Pour le piment dans une vie trop rangée, pour mieux connaître leur corps ou pour le sexe, tout simplement. Avec en prime pour tous, le prétexte fantastique de faire ça au nom de la science. Au cours de la décennie suivante, 382 hommes et 312 femmes vont défiler dans le laboratoire de Bill et Ginny. Près de 10 000 actes sexuels, qu'il s'agisse de masturbation ou d'accouplement, vont être observés. Et ce qu'ils vont apprendre et révéler au monde va chambouler la société.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui à nos côtés dans l'heure H, William Masters et Virginia Johnson, deux sexologues qui vont inspirer la révolution sexuelle américaine des années 60. Après avoir observé plus de 10 000 rapports sexuels, ils vont publier un ouvrage qui va bouleverser la compréhension de la nation américaine sur la sexualité et briser tous les vieux mythes. Retour sur la vie scandaleuse de William Masters et Virginia Johnson, qui ont appris à des milliers de couples à mieux s'aimer. Nous sommes en 1966. William et Virginia viennent de publier un ouvrage intitulé « La réponse sexuelle humaine ». Il s'agit des résultats de leurs 9 années de recherche sur ce que le corps humain traverse depuis la phase d'excitation à celle de l'orgasme. Le livre est un tremblement de terre. Le fait qu'un couple ait observé des hommes et des femmes en plein acte sexuel est déjà impensable pour les millions d'Américains. Mais que dire de son contenu? D'abord destiné à la communauté scientifique et médicale, il devient pourtant un best-seller que les Américains s'arrachent ou condamnent. Le livre fait donc l'objet d'une immense controverse. La façon dont la presse traite le sujet à l'époque en est un bon exemple. Cela vous choque-t-il si je vous dis le mot « orgasme » ou suis-je trop cru quand je parle d'éjaculation précoce? Pourtant, ce sont des notions naturelles, au même titre qu'éternuement ou dépression. Eh bien, à la fin des années 60, les médias qui sont assez téméraires pour s'emparer de l'étude Masters-Johnson préfèrent utiliser l'expression « approche de stimulation » pour désigner les préliminaires ou « performance vocale » pour parler d'orgasme. On marche sur des œufs. Mais c'est avant tout le contenu de l'étude qui va heurter les sensibilités. Ce que révèlent Bill et Ginny va à l'encontre de toutes les idées reçues qui sont nées et ont survécu au cours des siècles précédents. Ils ont brisé tous les mythes. Oui, on peut avoir plus de 60 ans et avoir une vie sexuelle épanouissante et active. Non, l'autostimulation masculine ne rend pas fou, impuissant ou neurasthénique. Le sexe ne met pas en danger le fœtus et n'altère pas les performances des athlètes. La taille du sexe masculin n'a pas d'impact sur le plaisir féminin car les parois de l'utérus peuvent doubler pendant les rapports de même que la taille du sexe masculin. Bien sûr, ces informations ont conduit de nombreux journalistes à demander quelle était la taille moyenne d'un pénis. Et diplomate Bill répondra avec humour: vous pouvez être sûr que c'est une information que nous ne révélerons jamais. C'est notre contribution à la survie de l'homme. Les résultats sur la sexualité féminine achèvent de bousculer les croyances de cette société encore très patriarcale des années 60. Bill et Ginny vont révéler au monde que la femme que les siècles de supériorité masculine ont surnommée le sexe faible est en vérité sexuellement supérieur à l'homme. Alors qu'un homme doit attendre près d'une heure pour retrouver ses capacités sexuelles, une femme est multi-orgasmique et peut donc connaître plusieurs orgasmes de suite lors d'un rapport. Mieux, celle pour qui l'adjectif « frigide » a été inventé peut expérimenter des orgasmes de 20 à 60 secondes et surtout connaître des orgasmes plus satisfaisants lors de la masturbation. Enfin, que Freud aille se rhabiller. Il n'y a pas d'un côté un organisme clitoridien, forme d'orgasme jugée inférieure et propre aux jeunes filles immatures, selon Freud, et d'un autre côté, un orgasme vaginal, jugé authentique et caractéristique des femmes plus âgées. En vérité, les deux organes sont interconnectés. Les ventes du livre apportent enfin au couple Masters-Johnson le succès et l'argent tant attendus. Et il était temps, car depuis 2 ans, ils réalisent leurs travaux dans une petite clinique de Saint-Louis, aux frais de Bill. Leur présence à l'hôpital n'était plus souhaitée. Diffuser les vidéos d'une séance masturbatoire et d'un utérus se contractant lors d'un orgasme devant un parterre de médecins n'était pas leur meilleure idée. Il faut croire que même la communauté scientifique, qu'on dit pourtant tournée vers demain, n'était pas prête. C'est ainsi que Bill et Ginny ont fondé leur propre clinique, poliment appelée « Fondation de recherche biologique sur la reproduction ». Après 10 années à observer des hommes et des femmes s'adonner au sexe, ils se sont donné une nouvelle mission, celle d'aider les couples dans leur dysfonctionnement sexuel. Et le succès récent de leur livre va enfin remplir leur carnet de rendez-vous. Avez-vous déjà eu un orgasme, madame? Dans quelles circonstances? Et quel a été votre sentiment pendant cette expérience? Virginia Johnson reçoit une femme dans son bureau pendant que William Masters reçoit le mari dans le bureau voisin. Le mari avait d'abord proposé que sa femme vienne consulter seule, puisqu'après tout, c'est elle qui souffre de dysfonctionnement. Mais cela va à l'encontre du programme innovant de Bill et Ginny, convaincu que l'entente sexuelle est une histoire de communication et doit donc impliquer les deux partenaires. Leur expérience les a amenés à conclure que beaucoup de dysfonctionnements sexuels sont de nature psychogène. La suite de leur programme fait partie d'un protocole très précis. Ginny écoutera ensuite le mari et Bill, l'épouse, puis ils se retrouveront à nouveau tous ensemble pour écouter l'analyse et les conseils des deux cliniciens. L'approche Masters-Johnson est tout à fait innovante et sera un succès. Pourtant, les deux cliniciens n'ont aucune formation en psychologie. Ils se basent uniquement sur leur expérience, leur bon sens et leur instinct, en particulier celui de Ginny qui, en 10 ans, a appris à écouter et comprendre les patients. C'est elle qui a persuadé Bill que la présence des deux conjoints était essentielle. Les hommes ne comprennent pas les femmes, Bill. 95% de tout ce qui a pu être écrit et dit sur la sexualité féminine jusqu'à présent vient des hommes. C'est donc pas fiable. C'est elle enfin qui a inventé l'outil Sunset Focus, une méthode encore conseillée par les sexologues d'aujourd'hui. Être performant à tout prix, capable de donner du plaisir à son partenaire, devoir éprouver le même désir au même moment. Les problèmes des couples d'hier ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. Ma méthode permet de restaurer une intimité et une confiance dans le couple. Elle est basée sur la découverte du corps de l'autre en excluant tout geste sexuel. Il faut éloigner l'idée absurde et victorienne que sexe et orgasme sont nécessairement un objectif final dans le lit conjugal, s'exclame Virginia. Dans un premier temps, William Masters et Virginia Johnson offriront leur consultation gratuitement. Ils attendront le succès de leur premier livre pour faire payer leur consultation. L'équivalent de 20 000 euros aujourd'hui pour 2 semaines de thérapie. Ah, l'entente sexuelle n'a pas de prix. Mais ne dit-on pas que William Masters et Virginia Johnson traitent avec succès 80% des cas dans leur clinique de la reproduction? Progressivement, le business de la sexologie explose. Reprenant les méthodes et le protocole de Masters et Johnson, ou pas, les centres de thérapie sexuelle fleurissent dans toutes les grandes villes des États-Unis. William et Virginia publieront un 2e livre, traitant cette fois des dysfonctionnements qu'ils ont pu observer dans leur clinique et des solutions pour restaurer l'entente sexuelle. Ils sont à l'apogée de leur carrière. Le Time les a d'ailleurs choisis en 1966 pour figurer sur sa célèbre couverture. La photo montre Virginia assise au premier plan et debout, juste derrière elle, William, avec son inséparable nœud papillon. Le magazine titre, à la fois titre d'avertissement et de teaser, « Éducation sexuelle pour adultes », célébrant l'immense contribution des deux chercheurs. Une nouvelle ère commence. Bill et Ginny ne sont plus seulement considérés comme des références en matière de fertilité et de sexualité. Ils sont devenus des pionniers de la sexologie moderne. On les considère aussi comme des avant-gardistes du féminisme. Ils n'ont pas seulement prouvé au monde la supériorité sexuelle de la femme, ils ont aussi démontré qu'elle pouvait aussi être une participante active dans l'intimité du couple, et pas seulement une ménagère bonne à servir un verre de whisky à son mari le soir. On peut aussi saluer le modernisme de Bill, qui s'est battu toute sa vie pour faire reconnaître Ginny comme son égale, fait relativement rare dans un domaine aussi masculin que la science où la femme reste souvent dans l'ombre. C'est lui qui a fait évoluer son poste de secrétaire vers celui de chercheuse dans leurs jeunes années de leur collaboration. Il a tenu à ce qu'elle co-signe officiellement les couvertures de leurs livres. Enfin, elle est devenue co-directrice de leur clinique renommée plus tard Institute Masters & Johnson. Dans les années 70, le mouvement féministe qualifiera le couple de « penseurs féminins ». Pourtant, William Masters n'a pas toujours été un modèle de féminisme, loin s'en faut. Quand il demande le divorce pour demander Ginny en mariage en 1971, Bill met fin à une rumeur vieille de 15 ans qui voulait qu'il soit amant. Mais la réalité est moins glamour ou romantique qu'elle ne le laisse supposer. Car leur relation n'a pas vraiment démarré sur les bases d'une attirance sexuelle. Bien au contraire. Quand Ginny a été embauchée par Bill, elle était loin d'éprouver une quelconque attirance pour ce médecin un peu antipathique qui faisait déjà 10 ans de plus que son âge. Mais dès le début de leur collaboration, sans doute enflammée par leurs observations constantes de couples en pleine copulation, Bill a laissé entendre que devenir eux-mêmes des sujets de leur propre étude ferait partie du contrat. Le fait de devenir nous-mêmes des sujets sera le meilleur moyen de vérifier nos théories. Et après tout, nous n'agirons pas différemment des autres scientifiques avant nous, en devenant nous-mêmes nos propres Kobe, a-t-il exposé à Ginny, sur un ton très professionnel. Le sexe les rapprochera néanmoins, et dans tous les sens du terme. Il sera le dénominateur commun de tout ce qui les lie, d'un point de vue intime comme professionnel. Et en se mariant, William et Virginia épouseront en réalité leur travail. Finalement, Masters demandera le divorce 20 ans plus tard pour se tourner vers un vieil amour de jeunesse. Abandonnée dans ses dernières années par celui pour qui elle a sacrifié ses enfants et ses études, Virginia détruira toutes leurs archives vidéo, soit le fruit précieux de leurs 36 années de travail. William Masters décédera à l'âge de 86 ans de la maladie de Parkinson. Il ne recevra jamais le prix Nobel. Virginia le suivra 12 ans plus tard, à l'âge de 88 ans. Celle qu'on présentait comme une psychologue n'obtiendra jamais son diplôme en psychologie. Leur statut de chercheur sera également contesté. Après tout, leur étude sur les réactions sexuelles du corps humain, celle qui les a propulsées sous le feu des projecteurs, n'est pas si représentative que ça. Les 382 hommes et les 312 femmes étaient WASP pour la majorité, issus de la classe moyenne et ayant reçu une éducation. Et surtout, leurs sujets étaient tous volontaires, ce qui implique un minimum d'expérience, sinon un intérêt pour le sexe, ce qui tend à exclure les individus plus novices. Et puis, le couple a commis de grosses erreurs dans ses dernières années de travaux. Des erreurs qui ne seront jamais pardonnées et qui ont ébréché à jamais leur crédibilité. La plus grosse erreur de Masters et Johnson a été de publier un ouvrage scientifique sur leur succès de reconversion des homosexuels en hétérosexuel. Pour des raisons différentes de celles qu'on évoquerait aujourd'hui, le livre a provoqué un scandale. Si une étude se base sur des homosexuels ayant dépensé 2 500 $ pour inverser leur sexualité en 2 semaines, votre échantillon est biaisé, ont dénoncé les scientifiques de l'époque. Une deuxième crise achèvera de ternir la réputation des deux cliniciens et signera leur déclin. Dans les années 80, marquées par l'explosion de la pandémie SIDA, William et Virginia publieront un autre ouvrage extrêmement alarmiste, menaçant de semer la panique dans le pays. Sur la base d'un échantillon peu représentatif, ils ont affirmé que le nombre de personnes séropositives était bien en dessous des chiffres officiels donnés par les autorités compétentes. Leur rapport affirmait par ailleurs que le sida se transmettait via les moustiques, en s'embrassant et même en s'asseyant sur une planche de toilette, pourvu qu'il y ait un infime transfert de sang. Enfin, Il soulignait que le virus pouvait se transmettre autant chez les hétérosexuels que les homosexuels, ce qui est vrai. Mais dans une nation qui considérait encore l'homosexualité comme une maladie, l'information a créé l'émoi. Rappelons-le. Le sida a d'abord été appelé « gay-related immune deficiency », c'est-à-dire « immunodéficience liée à l'homosexualité ». L'OMS s'est emparé de l'affaire, publiant les démentis qui s'imposaient. Il est irresponsable de la part des deux sexologues américains de s'appuyer sur leur prestige pour publier de telles thèses sur la transmission du sida, ont condamné les responsables du programme sida. Un journaliste a alors demandé à Bill comment il en était venu à ces conclusions. Le docteur Masters, vieillissant, a répondu simplement « J'en suis convaincu, c'est tout ». Virginia Johnson sera furieuse. Elle ne partageait pas l'avis de Bill sur ses deux dernières études, dans lesquelles elle ne s'était d'ailleurs pas appliquée. Cette crise marquera la rupture dans la relation professionnelle et privée qui les liait. Virginia décidera d'écarter son mari et elle reprendra les rênes de la clinique. Malheureusement, face à une concurrence grandissante et après avoir été au centre d'une polémique mondiale, la clinique, autrefois si prospère, ne se relèvera pas et Bill demandera le divorce. Quoi qu'il en soit, malgré les polémiques et les scandales qui ont touché Masters et Johnson, on ne peut occulter le fait que leur travail a été révolutionnaire pour notre société et leur influence considérable. Le mot « révolutionnaire » peut vous sembler fort aujourd'hui. Nous voyons des couples nus à la télévision, les boutiques érotiques ont pignon sur rue, la reproduction est enseignée à l'école et le sexe est un sujet qui s'invite même dans nos dîners entre amis. Combien d'entre vous, messieurs, demandent du Viagra à leurs généralistes ? Dans les années 50, observer des couples s'adonnant au sexe, placer une caméra dans un sextoy et publier des résultats aux dépens de la morale et des codes en vigueur était pour le moins osé et courageux. Alors, on ne peut que saluer William Masters et Virginia Johnson car ils incarnent la victoire de la médecine sur les croyances religieuses et culturelles. Ils ont sanctifié la sexualité du plaisir, prouvant que le sexe n'a pas qu'un but procréatif. Et ils ont apporté des solutions et de l'espoir à des millions d'individus souffrant de dysfonctionnements sexuels. Malheureusement, ils sont encore méconnus chez nous. Une série télévisée retraçant leur vie est parue en 2013, acclamée par les critiques. Elle a néanmoins pris fin après 4 saisons, faute d'audience. Pourtant, le monde gagnerait à bénéficier des enseignements de Bill et de Ginny. Une sexologue américaine a récemment répertorié les questions les plus posées sur Google en matière de sexe. Et la première question est « Comment avoir des rapports sexuels ?» La preuve que le sexe n'a pas fini d'être un mystère pour beaucoup d'entre nous. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Adeline Drouin.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.